Entendez-vous l'écho ? Arjuna Andrade.
Troisième mouvement de notre semaine consacrée au véritable prix de la gratuité. Après nous être intéressés à l'histoire de la charité et aux logiques du travail sans contrepartie, nous revenons aujourd'hui sur l'illusion entretenue d'un Internet gratuit. Il faut dire que la toile fut pensée à ses origines comme un espace utopique du partage des savoirs et de la gratuité, mais la multiplication de nos pratiques du numérique démultiplie les indices de notre vie en ligne. Autant de traces numériques, phéromones de données laissées à notre insu sur des réseaux privés. La production exponentielle des données personnel change la donne, aiguise les appétits et les avidités, à commencer par celle des géants du numérique, Facebook, Apple et autres Google, qui voient dans ces données librement échangées une source potentiellement infinie de profits. La capture et la monétisation de nos informations deviennent alors la règle et servent à financer ce régime apparent de la gratuité. Alors sommes-nous collectivement impuissants face à ces nouveaux géants, ou reste-t-il un espace pour retrouver le contrôle de notre vie privée ? Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. C'est donc sur cet océan de données collectées que nous vous proposons aujourd'hui de naviguer en compagnie de Fabrice Rochelandais, professeur à l'université Sorbonne Paris 3, auteur notamment de l'ouvrage « Économie des données personnelles et de la vie privée » publié à La Découverte. Avec nous également Benjamin Bayard, coprésident de la Quadrature du Net, une association de défense des droits numériques. Fabrice Rochelandais, Benjamin Bayard, bonjour.
Bonjour.
Benjamin Bayard, nous aurions donc perdu ce paradis du partage et de la gratuité qui était Internet à ses débuts ?
Perdu, pas vraiment, parce qu'en fait, il est toujours là. Vous le retrouvez de manière très commune dans quelque chose comme Wikipédia, par exemple. Donc non, cette espèce de paradis est absolument pas perdu. On y a rajouté quelques dépotoirs à côté, mais on n'a pas enlevé la partie intéressante.
Mais alors, s'il reste ces espaces perdus et retrouvés, ce qui est intéressant, c'est de dire aussi que les données qui sont sur ces espaces comme Wikipédia ou comme l'Internet à ses débuts ont une caractéristique un peu particulière. On peut les considérer comme des biens publics. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, Fabrice Rochelandais, quelles caractéristiques ils ont qui font d'eux des biens publics ?
Alors oui, c'est des biens collectifs en fait, plus particulièrement, qui sont en fait non rivaux souvent en usage. C'est-à-dire que je peux utiliser un média social et quelqu'un d'autre peut également l'utiliser. Donc de ce point de vue-là, ils sont des biens collectifs, oui.
Ils sont à la fois promus par tout le monde et en même temps tout le monde peut les récupérer et cela produit des économies d'échelle de demande. Mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, donc les acteurs de ce numérique florissant vont se rendre compte qu'ils peuvent faire de l'argent sur ces données privées. Ils vont donc commencer à chercher un modèle économique viable. Comment est-ce qu'ils vont faire, Benjamin Bayard, pour commencer à créer de la valeur à partir de ces informations produites par nous et par les utilisateurs d'Internet?
Alors en fait, ça c'est un modèle qui est plus récent, qui est celui qu'on voit apparaître à la fin des années 90, au début des années 2000. Pour faire simple, ils ont fait comme faisaient déjà d'autres avant eux, c'est-à-dire qu'ils ont regardé comment faisait la télévision pour gagner de l'argent sans faire payer d'abonnement. Et c'est le moment où ça a commencé à glisser, c'est le moment où on a commencé à fournir des services contre de la publicité. Et où ça, c'est une des racines profondes du mal, mais qui est pas spécifique à Internet. C'est pas quelque chose qui est venu avec le numérique, la publicité. On trouve ça à la radio et à la télévision avec les mêmes effets pervers. C'est-à-dire que c'est un ancien patron de TF1 qui expliquait que son client c'est Coca-Cola et que ce qu'il vend comme produit c'est du temps de cerveau disponible. Donc cette inversion de rapport, elle est ancienne et elle vient à partir du moment où il y a un marché publicitaire et où une activité ne vit que de publicité. On inverse le rapport entre le client et la marchandise.
Mais alors dans le même mouvement, ça veut dire que non seulement on va commencer à proposer des informations, plutôt des publicités faites sur mesure pour répondre à des utilisateurs qui auront certaines données spécifiques qu'ils auront laissées sur Internet, mais dans le même temps, on va aussi offrir aux géants du numérique et surtout aux annonceurs des publics qui vont être intéressés potentiellement par leurs outils, par leurs usages.
Alors ça, c'est le moment où ça dérape. Ça, c'est le moment où ça dérape vraiment. Financer un site web en mettant de la publicité sur les pages, c'est relativement courant, c'est plutôt agaçant, mais c'est pas très dangereux. Le moment où ça dérape, c'est le moment où on commence à profiler les visiteurs. C'est-à-dire qu'on cherche à déterminer qui est en train de regarder la publicité pour lui proposer non pas une publicité générique, mais une publicité qui vous cible vous. Et alors pour le coup, tout est intéressant. Savoir avec qui vous couchez, savoir ce que vous mangez, savoir vos goûts politiques, savoir vos goûts philosophiques, savoir est-ce que vous êtes croyant ou pas, de quelle religion, selon quel rite et selon quelle pratique, ça changera les publicités qu'on va vous montrer. Et là, on commence à mettre la population en fiche. Et là, on commence à chercher à glaner un maximum de données sur les gens pour savoir ce qu'on va pouvoir leur présenter comme publicité et par monter des profils. Donc ça, c'est le moment où ça dérape. Et ensuite, ça empire.
On verra ça dans une seconde, mais alors mieux connaître ses clients, Fabrice Hochelandais, c'est aussi une méthode pour les fidéliser avec ses offres personnalisées. Mais ce qui est intéressant, c'est que même des informations a priori indolores, comme le simple fait l'espace de localisation ou les pratiques sur Internet, sans qu'il n'y ait ni nom ni préférence personnelle, peuvent être utiles aussi à ces sites qui vont améliorer l'ergonomie, l'usage de ces différents sites. Même nos données a priori
Les plus élémentaires, les plus anodines, servent à construire, à co-construire en réalité la valeur. Alors, on parlait de publicité ciblée, c'est vrai que c'est une des choses que l'on peut observer sur l'exploitation des données personnelles, de ce qui est fait des données qu'on collecte sur nous, en fait, en tant qu'auditeur, en tant qu'internaute, en tant que mobinaute. Mais en fait, il faut voir aussi que ces données personnelles, c'est un peu plus pernicieux, c'est que les données personnelles servent aussi à comme je le disais, à co-construire les services. C'est-à-dire, par exemple, on va citer quelques noms, mais Facebook n'a pas de valeur si je donne pas mes, pour moi en tout cas, n'a pas de valeur si je donne pas mes données personnelles. Donc je suis le certes il y a un danger, certes il y a des menaces, certes il y a des préjudices potentiels, mais je suis un peu aussi à la source de tout cela, puisque lorsque je divulgue mes données, mais je me géolocalise avec mes amis, etc., je tends la perche pour être battu quelque part, puisque je participe à la construction de ce bien collectif.
Nous verrons dans un instant comment cette participation plus ou moins volontaire peut être vue comme un travail plus ou moins visible et reconnu comme tel. Mais ce qui est intéressant d'abord, c'est de voir que c'est les personnes qui vont aller donner leurs informations et leurs données sur ces différents sites, on pense notamment aux réseaux sociaux, elles vont le faire car ils ont une forme de présence et de familiarité qui ne leur fait pas peur, qui leur donne envie de s'épancher dessus. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit l'auteur Alain Damasio.
Et puis nous, on est arrivé à un système encore plus subtil, avec l'arrivée des réseaux, d'Internet, smartphones, etc. C'est-à-dire ce que j'appelle moi le régime de trace, quoi, société de trace. Où du coup, ben, on n'est plus du tout dans le Big Brother, c'est-à-dire c'est pas le grand frère, c'est pas cette espèce de figure de dictateur qui nous surplombe et qui nous surveille, mais c'est plutôt une sorte de, au départ, moi je disais Big Brother, c'est-à-dire une sorte de mère couvante, comme ça, qui nous cajole, espèce de techno-cocon autour de nous, qui est devenu de plus en plus épais, de plus en plus tissé, et qui est constitué sur la première couche par le smartphone, et puis ensuite tous les écrans qui sont autour de nous, et qui fait qu'effectivement, entouré d'applis, entouré de logiciels, entouré d'outils en fait, à fluidifier nos vies, à les rendre commodes, on se retrouve dans cette espèce de couveuse, quoi. Puis après, ça dérive un peu, je délirais sur Big Data, mais parce que c'est ça, c'est un peu la tente flippante qui est celle qui récupère les données qu'on donne très tranquillement à Big Brother, qu'on cède tranquillement à Big Brother parce qu'on voit pas en quoi notre vie privée est attaquée réellement, on voit pas ce qu'ils font de ces données. Donc on les lègue dans la douceur et puis derrière Big Data les récupère et puis évidemment fait tous les systèmes de corrélation pour nous cerner, pour nous profiler, pour nous proposer les pubs dont on est censé avoir envie et nous pousser vers des directions qui sont les plus profitables pour eux, quoi.
On entendait l'auteur de science-fiction Alain Damasio dans un entretien donné au média indépendant Thinkerview le 11 avril dernier. Il évoque ici l'idée pourtant bien réelle selon laquelle les internautes et plus largement les individus se seraient livrés corps et âme à des entités familières, non plus ce Big Brother terrifiant de George Orwell, mais bien ces Big Mothers enveloppantes, cajolantes, rassurantes même. Benjamin Bayard, qu'est-ce que vous pensez de cette idée ?
C'est une vision qui est relativement juste. C'est-à-dire que si Facebook était désagréable ou était trop désagréable, les gens n'y seraient pas, quoi. Je veux dire, on fait très attention à ce qu'on donne comme information quand on va sur le site du fisc, parce que le fisc, c'est pas notre copain, quoi. Quand on va sur Facebook pour parler avec ses amis et sa famille, on n'est pas sur la défensive, on est plutôt dans un cercle familier et de confiance. C'est ce qui fait d'ailleurs la force de ces entreprises, hein, c'est l'effet de réseau. Juste comme ça pour rappeler et reposer cette idée-là, l'effet de réseau, c'est le fait qu'un réseau social ou autre a un intérêt qui croît en lien avec le nombre de liens que vous avez. Facebook n'est intéressant que parce que vos copains y sont. Si ni votre famille, ni vos amis, ni personne que vous connaissez n'est sur Facebook, Facebook ne vous sert à rien. Vous allez y aller, vous allez poster vos deux photos de vacances, personne ne va les regarder, personne ne va les commenter. Ça sert à rien.
C'est non seulement intéressant dans l'usage qu'on en a au quotidien, mais ça devient aussi une évidence sociale et presque psychologique, puisque il faut que j'y sois.
Oui, dans un groupe donné, c'est attendu. C'est-à-dire que si dans votre famille, l'usage, c'est de poster les vacances et de donner les nouvelles du baptême du petit dernier sur Facebook, si vous n'êtes pas sur Facebook, vous ne savez pas. Et donc, vous savez, vous n'avez pas les photos du mariage, vous n'avez pas les photos de la bar mitzvah, vous n'avez pas les nouvelles de tata qui est malade, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de réseau. Et c'est ce qui fait que c'est très coûteux d'en sortir. C'est-à-dire quitter un de ces réseaux, que ce soit Facebook, Twitter, etc., ça a un coût. C'est-à-dire qu'il faut vous en extraire et il faut renoncer à des relations avec des gens. Il y a des amis que, dont vous n'aurez plus de nouvelles ou moins. Il y a une partie de la famille que vous verrez plus ou moins, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux et qui fait qu'on reste, même quand on sait que c'est pas bien. C'est-à-dire que tous les gens que je connais et qui disent « Ah, Facebook, c'est quand même pas terrible, ils font n'importe quoi avec nos données perso, ils les laissent utiliser par des Cambridge Analytica, ils les laissent en accès au gouvernement, ils diffusent des cochonneries, ils propagent des fake news, tout ça. » Enfin, les gens sont très fâchés, mais ils restent. Et en fait, ils restent parce qu'ils peuvent pas faire autrement, parce qu'il y a, un coût humain à quitter ces réseaux qui est extrêmement élevé.
Et on parlait notamment de Facebook, de Google et de ces réseaux sociaux, Google Plus qui a vécu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces personnes, plutôt ces entités qui captent nos données, se sont complètement démultipliées ces dernières années. On pense toujours aux géants du numérique, mais on peut aussi citer les banques ou même la grande distribution. Quand on fait une carte de fidélité dans un grand magasin, c'est une manière aussi de donner nos données.
Oui, tout à fait, oui. Ça rejoint, en fait. C'est un très bon exemple de ce qu'on appelle le paradoxe de la vie privée, les cagnottes, parce que c'est assez ancien, en fait. C'est plus ancien que Facebook. J'ai une carte de fidélité, j'achète, je reçois une petite cagnotte, je la veux ou je la veux pas avec le caissier, la caissière, et quelque part en fait pour une poignée d'euros chaque mois, je livre des données qui valent extrêmement cher, c'est-à-dire mes listes de courses qui disent exactement mes besoins, qui disent également plus que mes besoins. Ils disent également si je suis une femme enceinte, si je suis végétarien, si je mange tel type d'alimentation. On peut même en déduire parfois ma religion. Donc quelque part, ça s'inscrit dans le quotidien, mais dans le quotidien au-delà des médias sociaux. Et aussi réagir aussi par rapport à ce qui a été dit précédemment, ça ne concerne pas donc que les médias en ligne, ça ne concerne pas que les médias sociaux, ça ne concerne pas que Facebook. Par exemple, un acteur comme Apple est assez friand de données personnelles. On n'attend pas des acteurs même comme Apple qui sont très sur la vente de matériel, mais qui sont très friands de données personnelles puisque ça fait vivre leur écosystème d'applications en fait. Donc on collecte.
Alors même qu'ils se répandent en ce moment avec une immense campagne de publicité en disant que pour eux, les informations personnelles sont absolument essentielles. Et pourtant, ce que l'on sait désormais, c'est qu'il y a un certain nombre de données dont on donne l'autorisation aux applications qui sont utilisées sur l'Apple Store. Et inversement, donc il y a un véritable jeu de vases communicants entre le device, le hardware du téléphone, et les données qui sont utilisées dessus.
En fait, c'est un modèle assez subtil, Apple, parce que l'idée, c'est de vendre du matériel. Donc, du matériel, il faut des tablettes, des smartphones, il faut des applications. Mais pour qu'il y ait des applications, il faut qu'il y ait du revenu pour les développeurs. Et les développeurs, sur quoi ils vivent? Ils vivent certes sur le grand jeu de la loterie de la vente d'applications, mais ça marche. Ça suffit pas pour finir le mois. Il faut souvent de la publicité. La publicité qui est proposée sur ces applications, c'est de la publicité ciblée, qui exploite des données personnelles. Donc, on voit apparaître tout un tas d'intermédiaires, notamment dans l'écosystème d'Apple, ça s'appelle Flurry, là, un joli nom, Flurry, mais sauf que c'est Flu2ry. Et c'est ce qu'on appelle un agrégateur de données qui va collecter les données. Chaque fois qu'on utilise la moindre application, je fais mon running, je livre mon poids, j'ai mes performances, mes données de santé éventuellement. Cette plateforme, des acteurs comme DoubleClick aussi, collectent ces données, les agrègent, créent des profils, revendent ces profils à des annonceurs qui, eux, vont poster les annonces sur les applications. Et à partir de là, la messe est dite en quelque sorte, puisque la répartition de la valeur a lieu sur les recettes publicitaires personnalisées entre les développeurs d'applications qui trouvent leur compte, l'agrégateur, et puis Apple qui vend des smartphones, qui vend des tablettes, comme ça.
Et à partir du moment où l'on sait que toutes ces données sont non seulement envoyées, mais ensuite utilisées, toute la question est celle de l'arbitrage que nous devons faire entre le fait de savoir que ces données sont utilisées et l'inconvénient que je vais avoir si elles ne sont pas utilisées. Car dans un premier temps, Benjamin Bayard, on a l'impression avec le développement de cette nouvelle économie que c'est bénéfique pour tout le monde, non seulement du côté des développeurs et des géants du numérique qui voient avec ces données qui se démultiplient, leur force de frappe se démultiplier aussi, et en face les consommateurs qui ont l'impression que tout cela leur est donné gratuitement.
Oui, c'est très faux en fait. C'est bien l'impression qu'on a, mais c'est une impression qui est très fausse. Faut comprendre plusieurs morceaux qui sont pas intuitifs. D'abord là-dedans, il y a une inversion des rapports. C'est-à-dire que quand vous avez un système économique qui se base sur la publicité, vous n'êtes plus sujet de la transaction, vous en êtes l'objet. Pour expliquer, quand vous allez acheter le pain, il y a deux sujets de la transaction, c'est le boulanger et vous. Vous détenez de l'argent, le boulanger il détient du pain, vous faites une transaction. L'objet de cette transaction, c'est le morceau de pain. Quand vous avez affaire à une appli qui vit de publicité, vous avez l'impression que l'objet de la transaction, c'est l'appli, et que vous êtes le client et que le développeur est le vendeur. Or, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Le client, c'est le publicitaire. Le vendeur, c'est bien le développeur de l'appli. Et le produit qu'on vend, c'est vous. Et ça, ça change tout. C'est-à-dire que vous n'êtes
plus... Les données étant une émanation directe de nous-mêmes.
Oui, ça j'y reviendrai juste après, mais ça change tout. Quand dans une transaction commerciale, vous n'êtes plus sujet de la transaction, sujet conscient signant un contrat, acceptant de céder une certaine quantité d'argent contre un bien, et que vous devenez un objet, quand on transforme les gens en objets, ça se termine toujours mal. C'est pas une bonne chose. Après, sur le fait que les données personnelles, c'est une partie de vous-même, c'est pour moi... une des façons de le comprendre. On dit souvent que mes données personnelles sont ma propriété. Alors ma propriété, pas au sens comme ma maison ou mon manteau que je peux vendre. Ma propriété comme la couleur de mes yeux ou comme mon ombre. Je peux pas vendre mon ombre, ça n'a pas de sens. Et les données personnelles,
on verra que certains le
proposent, elles sont pourtant. Vous. Vos données personnelles, c'est vous. Parce qu'en fait, quand on dit données personnelles, ce que les gens ont en tête, c'est les photos de vacances qu'on a publiées, le petit mot qu'on a posté pour mamie, pour son anniversaire ou pour la fête des grands-mères, etc. Mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est à quelle heure vous vous êtes levé. C'est quel trajet vous avez fait pour aller au travail. Pour peu que vous ayez une montre connectée, c'est les rythmes de vos pulsations cardiaques. C'est à quel moment vous êtes tombé amoureux et de qui. Parce qu'on le sait. On le sait parce que ça se voit. Ça se mesure sur le nombre et la fréquence des messages. Il n'y a pas besoin de lire le contenu. C'est-à-dire quelqu'un à qui vous ne parliez jamais et avec qui vous vous mettez à échanger de plus en plus de messages, puis 40 à 50 messages par jour, ou bien vous vous entendez vraiment très bien avec votre dealer, ou bien vous êtes tombé amoureux. Et c'est vachement simple à lire. Et vous ne pouvez pas le masquer. Et typiquement, les algos qui font ces mesures-là chez Facebook sont au courant avant vous. Parce que la courbe caractéristique qui change sur la fréquence d'échange des messages, elle commence à changer avant que vous n'ayez compris que c'était intéressant, ou que c'était important, ou que c'était une relation sérieuse. Et vos données personnelles sont vous. Elles émanent de vous, elles sont une excroissance de vous.
Mais alors ce qui est intéressant tout de même, c'est que si on a cette impression de gratuité, car au quotidien on a l'impression d'utiliser gratuitement Facebook et toutes ces autres applications... c'est qu'elle se finance grâce à ces données, nous l'avons compris, mais aussi grâce au travail que nous effectuons. Je vous propose d'écouter l'analyse qu'en fait le philosophe Antonio Casilli le 12 novembre 2015 dans La Tête au Carré sur France Inter.
On peut arriver à une définition si on dit ce que le digital libre n'est pas. Donc c'est pas, et c'est pourquoi on n'a pas choisi les termes français travail numérique, ce n'est pas le travail des personnes qui sont employées, par exemple, dans le secteur du numérique. On ne parle pas de hackers, de codeurs, on parle d'un travail à faible intensité, à faible, voire à rémunération nulle, et surtout qui est un travail qui parfois échappe même à la définition même de travail, c'est-à-dire qui est un travail qui est implicite. Donc c'est le travail de chacun d'entre nous, dans la mesure où nous participons d'un énorme écosystème de plateformes numériques, un écosystème qui s'appuie sur des applications mobiles, sur des sites web, sur des services en ligne, et de ce point de vue-là, par exemple, le fait même de contribuer à un média social par, que sais-je, la publication d'un post, d'une photo, d'une vidéo, ou parfois tout simplement par nos likes, nos clics. Ouais.
On participe en tout cas à fournir.
On participe certainement, et la question est justement de savoir si d'abord on conçoit ça comme du travail, et si ensuite on le sait, on le reconnaît en tant que tel. Et la question de la reconnaissance est la question centrale de tout un ensemble de luttes autour du digital labor.
Anthony Casilli nous parle donc de digital labor, un travail de faible intensité, gratuit, et qui échapperait même à la définition du travail. Dès lors, le simple fait de liker, de commenter, de partager des informations sur Facebook ou ailleurs serait une manière de travailler pour ces plateformes en leur fournissant des données, Fabrice Rochelandais ?
Moi, j'aime pas trop cette notion de travail gratuit, en fait, parce que ça, le travail, ça renvoie à une conception un peu aussi philosophique où, quand je travaille, ben je possède finalement le produit de mon travail, ou j'ai un droit de propriété quelconque sur le fruit de mon travail. Comme le disait justement Benjamin Bayard, c'est qu'en fait il n'y a pas de, on n'est pas propriétaire en fait de ces données. Ça renvoie en fait à un problème, c'est que les données personnelles, on emploie la même expression pour deux choses différentes. Il y a une nature un peu double des données personnelles. Parce que d'un côté, en fait, ça renvoie aux éléments de vie privée, donc aux droits de la personne, une extension de la personnalité. On retrouve un peu l'idée du droit des œuvres dans le domaine du droit d'auteur. Mais également, ça renvoie données personnelles à des marchandises. Mais entre la donnée personnelle brute, celle que l'on peut livrer en utilisant, puisqu'en travaillant, en utilisant, en bénéficiant en fait de ces réseaux sociaux, de leurs services, de pouvoir communiquer avec d'autres, etc. Eh bien, ces données brutes que l'on donne, en fait, elles n'ont pas de valeur en tant que telles. Moi, la photo que je poste, elle n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, ce qui va devenir une donnée personnelle, qui va devenir une marchandise, un bien informationnel, comme on dit en économie, c'est la donnée traitée. La donnée qui va être traitée par les algorithmes, par les plateformes, par les agrégateurs, etc.
C'est le recoupement des centaines de milliers de données qu'on a sur
Exactement.
Nous, avec ce qu'on appelle le big data, qui permet d'avoir une oui. image quasiment holographique de nous dans le monde du numérique. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Benjamin Bayard, de cette idée d'un travail effectué malgré nous pour les plateformes qui récupèrent notre force
En fait, quand Antonio Casilli parle du digital labor, il recouvre toujours deux parties. Il y a une partie qui est du travail inconscient, c'est effectivement ce qui correspond à la donnée personnelle. C'est-à-dire que quand vous regardez des vidéos ou des images et quand vous, par exemple, les likez ou pas, vous donnez de l'information. C'est-à-dire si Facebook reçoit 150 millions de photographies, savoir lesquelles sont intéressantes, c'est très compliqué. Demander à un ordinateur de regarder les photos et de dire celle-ci est rigolote et celle-ci elle est chiante et puis celle-ci elle est floue et puis celle-ci elle est pas drôle, c'est pas pratique à faire. Vous présentez ça à des individus, ils vont vous le dire si c'est drôle. Ils vont vous le dire si c'est intéressant à regarder. Et donc, ils vont classifier et hiérarchiser l'information, et cette information, une fois enrichie de « c'est drôle, c'est pas drôle, c'est intéressant », les gens qui ont aimé la photo bidule ont aussi aimé la photo truc, parce qu'il y avait aussi dessus un petit chat mignon qui se casse la gueule. Ça, Facebook, le plus souvent, ne s'embête pas à mettre des humains derrière. Et c'est, en fait, ils calculent, les gens qui ont liké telle photo ont aussi liké telle autre, et donc elles doivent présenter un caractère similaire quelconque. Donc ça, c'est toute une partie qu'on peut effectivement ou pas qualifier de travail. Et c'est en fait l'exploitation des données personnelles des gens. Et puis, il y a une deuxième partie qui est vraiment du travail. Ce qu'on nous vend sous le nom d'intelligence artificielle, c'est très souvent pas du tout de l'intelligence et pas du tout artificielle. Ce sont des gens qui sont rémunérés au clic à dire ça c'est bien un animal, ça c'est bien une chaise, ça c'est bien un panneau indicateur, ça c'est bien tel élément, ou qui sont rémunérés à fausser. C'est-à-dire que quand on veut promouvoir une publication sur Facebook pour faire croire qu'elle est intéressante, il va se trouver 50 000 personnes aux Philippines qui vont aller cliquer « like » sur la publication, qu'ils ne comprennent pas parce qu'elle est en français, mais elle va quand même remonter dans les algos de classement, et donc l'entreprise de communication qui voulait mettre en avant l'information a réussi à la mettre en avant. Ça, c'est du travail, c'est rémunéré. C'est un dixième de centime le clic, mais c'est rémunéré, c'est du travail.
Il y a même des cas où ce qui est mis en valeur ou ce qui est caractérisé par une qualité et une valeur, c'est l'être humain lui-même. On a vu récemment sortir une enquête qui montrait que des sites de rencontres comme Tinder, par exemple, réussissaient à donner une valeur à la personne et à la façon dont elle se projette dans le monde avec ce qu'on appelle un Elo score, qui rendrait compte du nombre de personnes qui la trouvent jolie, pas jolie, intéressante, pas intéressante. Mais ils arrivent aussi à savoir, par exemple, si on parle bien français, mal français, avec des bonnes phrases, etc. Donc ça veut dire que nous-mêmes, à un moment, nous sommes mis dans ce marché et dans cette mise en concurrence de tous contre tous. Fabrice Rochelander.
Justement, je pense qu'on n'est pas mis dans le marché. C'est bien là le problème. C'est-à-dire que ça, on parle souvent du marché des données personnelles. Mais en fait, en réalité, il faut bien voir qu'il y a plusieurs étages. Par exemple, si on reste dans l'exemple de la publicité, vous avez la collecte. La collecte, effectivement, il y a un premier niveau de transaction entre les individus et les collecteurs. Ça peut être Facebook, les médias sociaux, etc. Deuxième niveau, c'est l'agrégation. C'est qu'on traite ces données, on leur donne de la valeur. Et puis le troisième niveau, c'est l'exploitation marchande. Ça peut être, par exemple, les annonceurs et les agrégateurs qui font leurs petites transactions. Sauf qu'il y a bien transaction marchande aux deux derniers niveaux, entre les agrégateurs, les collecteurs, etc. Mais au premier niveau, il n'y a pas de transaction marchande. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de vendeur. Moi, quand je vais utiliser un média social, je ne suis pas vendeur. Juridiquement, je signe aucun contrat de vente. Et en plus, mon consentement, il n'est pas du tout éclairé, il n'est pas du tout informé. Donc, il y a quelque part une relation qui serait à la rigueur une relation de troc entre moi et le service en ligne que j'utilise, au terme duquel je livre des données, mais un peu contraint, parce que si je veux que le service existe, ben, je suis obligé d'en profiter et créer de l'utilité. Avec ce service, je suis obligé de livrer mes données, mon âge, etc. Et de l'autre côté, bah, celui qui m'offre ce service, d'autant plus s'il est gratuit, lui aussi est contraint quelque part, parce qu'il faut qu'il finance. Donc il faut qu'il aille voir un annonceur, etc. Donc il n'y a pas vraiment enfin, le marché, il est incomplet. Et c'est peut-être là le problème des données personnelles. C'est qu'on n'a pas affaire à un marché comme le marché de la boulangerie qui était cité par Benjamin Bayard.
Benjamin Bayard.
Alors là, je suis assez de l'avis opposé. Le marché est beaucoup trop complet. C'est-à-dire que je n'aime pas du tout l'expression, l'idée que ce soit une économie des données personnelles. C'est-à-dire qu'on les a cédées à une plateforme contre un consentement qui a été obtenu de manière fausse, puisque moi, on me proposait un service, on me proposait pas que mes données soient maltraitées derrière, et ensuite les données sont revendues, échangées, etc. Et pour moi, là, il y a quelque chose qui va pas, parce que c'est pas les données qu'on revend. Vous voyez, ce qu'on revend, c'est moi. Et on n'a pas le droit de faire le commerce des gens. Si j'ai donné mon sang pour sauver quelqu'un, c'est pas pour qu'on en fasse commerce. Si vous faites un don d'organe à un moment dans votre vie, c'est pas pour que derrière quelqu'un aille en faire commerce. Et donc, pour moi, l'erreur est qu'il puisse exister un marché de la donnée personnelle. C'est pour moi aussi insupportable que le fait qu'il y ait un marché d'organes. C'est pareil, on vend les morceaux des gens, on vend les gens.
Entendez-vous l'écho ? Arjuna Andrade.
Le truc, c'est qu'elle est plus jolie. Et ça fout la haine. Puis elle poste une photo et l'autre, elle met un j'aime. Et puis elle se sent mal. Pourquoi faire semblant de bien l'aimer ? Car en attendant, c'est bête, mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant de bien aller? Dominique, elle ment, car c'est tentant de leur montrer, même si c'est pas vrai. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. Should be like me. Qui sort heureux d'ici. Le truc, c'est qu'elle donne trop envie. Et ça fout la haine. Quand elle se regarde, elle se dit, de toute façon, moi, je suis mieux qu'elle. Après, elle se sent mal. Pourquoi faire semblant de bien l'aimer? Car en attendant, c'est bête, mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant de bien aller? Dominique, elle ment. Sa vie n'est pas parfaite comme elle aime le montrer. Nobody's really happy. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Oh, and finally, nobody's really happy. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. I'd be like you. You wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. You make me feel. You make me feel. As I make you feel. Well, you make me feel like a big shit. Like a big shit.
as I make you feel? Will you make me feel like a big shit? Like a big shit.
Nous écoutons Victime des réseaux d'Angèle. Vous êtes bien sur France Culture. Nous sommes en compagnie de Benjamin Bayard et Fabrice Rochelandais et nous parlons ensemble du marché des données personnelles. Benjamin Bayard, cela fait 15 ans que Facebook existe et 15 ans qu'ils s'excusent régulièrement de fuites de données, de problèmes de leur usage, etc. Pour vous, cela tient à la structure même du modèle. Ce n'est pas une erreur.
Ce n'est pas une erreur. C'est pas un accident. C'est fait pour. C'est un peu comme si votre voiture s'excusait de rouler, vous voyez. C'est pas complètement un accident. C'est fait pour rouler. Facebook est fait pour exploiter les données personnelles des gens. Facebook est fait pour considérer que les gens sont une marchandise, et pour faire en sorte que les données circulent aux endroits où ça arrange le plus, donc vers des publicitaires, vers des gens qui font de la manipulation de l'opinion publique en période électorale, c'est fait pour ça. Facebook est fait pour ça. Le produit que vend Facebook, c'est ça. C'est le fait de pouvoir manipuler les gens. Quand on détient des données personnelles sur les gens, que ce soit sur un individu ou sur une population, on détient la capacité de la comprendre et donc la capacité d'agir dessus, c'est-à-dire une forme d'emprise. Et le métier de Facebook, c'est d'offrir aux publicitaires le maximum d'emprise possible sur vous. Et donc oui, à chaque fois que ça se voit, que c'est trop gros, que c'est trop sale, que ça devient vraiment indéfendable, Mark Zuckerberg va s'excuser platement en disant « Ouh là là, je le referai plus ». Et en gros, il y a un gros scandale tous les 8 à 12 mois en ce moment, il s'excuse tous les 8 à 12 mois, il est rodé, quoi, ça va.
Au-delà de l'intrusion qui pose déjà problème en soi, certains auteurs parlent également des risques que pose ce problème de capitalisme de surveillance. Ce sont les mots de l'intellectuelle Shoshana Zuboff, américaine, et qui dit que les géants du numérique ne sont plus seulement en mesure de s'adapter et de répondre à nos besoins, à nos envies et à celles des publicitaires, mais aussi de prédire nos attentes et de les transformer, de plier notre désir d'une certaine manière, Fabrice Rochelandais.
Oui, une capacité d'influence, mais... J'allais dire, oui, avec la publicité, on avait déjà un peu le modèle publicitaire et les médias, c'est un peu ce qui était rappelé au départ. Sauf que là, oui, effectivement, ils vont peut-être prédire, mais ils vont peut-être influencer nos préférences.
Non seulement nos préférences, mais aussi nos pratiques. Elle prend notamment cet exemple qui est stupéfiant de Pokémon Go, qui est une application qui fait gambader joyeusement des personnes dans la rue pour aller trouver des Pokémon par une appli et une intelligence artificielle. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils avaient conclu des contrats avec Starbucks et autres McDonald's pour qu'à la recherche de ces Pokémon rares, ils tombent sur... un Starbucks ou un McDonald's.
Alors, il y avait un exemple qui a été donné, je crois, par le New York Times il y a quelques années, qui était assez intéressant. C'était par exemple, on a toujours l'impression que comme dirait Dominique Cardon, il y a un clair-obscur des discussions et que c'est du bavardage, etc. Mais en fait, l'idée de Facebook notamment, calcule des indices sur ce bavardage selon la tension qu'on peut avoir, etc. On peut imaginer demain les petites enceintes connectées qui feront un peu la même chose selon le ton de la discussion. On pourra par exemple prédire la séparation d'un couple ou le fait qu'il y a un enfant, etc. On pourra prédire énormément de choses et ça intéresse énormément les par exemple aux États-Unis, c'est les marchands de bière. Quand on divorce, on change de bière. Donc pour les marques, c'est très important. Donc l'idée c'est de prédire effectivement pour pouvoir mieux vendre en fait. Donc on est vraiment dans un capitalisme de effectivement aussi de surveillance de ce point de vue-là.
De prédiction et de transformation des pratiques, on voit par exemple dans le cas de Pokémon Go que l'application qui développe ce jeu, a priori bon enfant, etc., n'est autre que Niantic, qui est une filiale de Google. Et donc, il y a toute la puissance nécessaire pour nous faire aller à peu près où on veut, où elle veut.
Oui, le capitalisme de surveillance, c'est exactement ce qu'on décrit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est le fait de considérer qu'il existe un marché des données personnelles, ce qui est en soi aberrant. On vend On vend les personnes, on vend la vie des personnes, et on espère en faire plus de croissance, plus de PIB, plus de etc., plus de saccage de la planète du coup, hein, parce que tout ça est pas très écolo. Donc c'est quelque chose d'assez toxique et d'assez constamment toxique.
Et ce que vous nous dites d'ailleurs, c'est que par exemple, si Facebook et les autres géants du numérique décidaient du jour au lendemain de non plus fonctionner sur la publicité, mais sur l'achat un usage, ce serait beaucoup plus stable comme situation.
Ah, ce serait beaucoup plus stable, ce serait beaucoup moins bon pour eux, mais ce serait beaucoup plus stable. Typiquement, cet effet économique bien connu sur Internet, qui est ce que les Anglais appellent « winners take all », c'est-à-dire que le gagnant prendra la totalité du marché et sera tout seul, est en moyenne plutôt faux, sauf quand on rentre dans ce modèle d'économie publicitaire. Où en fait, il y a une dualité entre l'effet de réseau, qui fait que vous devez être sur le même réseau social que vos copains, et l'effet du coup de domination sur le marché publicitaire, qui fait que du coup Facebook se retrouve avec une part de marché dans le réseau, dans la publicité, qui est extrêmement élevée, qui fait qu'il ne peut pas y avoir de concurrence. Une entreprise ne peut pas s'installer face à Facebook. Quand vous avez un système qui n'est pas celui-là et qu'on a une rémunération des services, quel que soit le mode de rémunération, je pense que personne n'a jamais payé pour consulter Wikipédia, et pourtant Wikipédia est rémunéré. C'est-à-dire que la plateforme n'est pas gratuite et elle ne se finance pas sur la publicité. C'est payé par des dons, c'est payé par des cotisations, c'est payé par des associations, c'est payé par... Des modèles économiques qui existent, il y en a beaucoup.
C'est un retour à l'ancien monde, vous diront ces nouveaux maîtres du monde nouveaux.
Oui, c'est un retour à l'ancien monde, à celui qui fonctionnait plutôt pas si mal.
Plus contrôlé et peut-être plus juste.
Plus contrôlé, je ne sais pas. Plus juste, probablement. Mais donc je termine sur quand on est sur d'autres modèles économiques et qu'on a des systèmes qui sont interopérables, on peut imaginer qu'il existe des réseaux sociaux, dont Facebook, mais dont d'autres. Et vous pouvez ouvrir votre profil sur l'un ou sur l'autre, exactement comme le fait que vous ayez une adresse mail sur Gmail ou sur Outlook ou sur RiseUp ou sur... Ne change rien, vous pouvez quand même envoyer des mails à tout le monde. Et en fait, le modèle où on paye pour le service qu'on utilise, quelle que soit la forme de ce paiement, et où on redevient sujet de la transaction, et où on ne s'adresse pas à une entreprise en monopole, mais à un réseau de fournisseurs dont on peut changer quand on en a envie, c'est quelque chose qui est économiquement beaucoup plus stable et beaucoup plus résilient. Il y a beaucoup moins de risques de faillite catastrophique, il y a beaucoup moins de risques systémiques. C'est-à-dire que mettre les données de 500 millions de personnes dans la nature, ça n'existe pas dans ce modèle-là parce qu'il n'y a pas une telle concentration.
Mais le problème, c'est que non seulement il faudrait faire changer les acteurs du numérique, mais qu'il y a aussi la question des consommateurs qui se retrouvent face à un paradoxe, à un arbitrage entre d'un côté le fait de devoir payer pour un service qui était jusqu'alors gratuit et de l'autre le fait de continuer sur quelque chose qui a priori ne les dérange pas trop. On a en tête cet exemple par exemple de Spotify ou de Deezer qui ont réussi à imposer le fait de payer à leurs utilisateurs parce qu'ils mettaient une page de publicité entre toutes les deux chansons et donc le problème était immédiat. Fabrice Rochelandais, ce qui n'est pas le cas de l'usage de nos données. Le problème n'est pas visible immédiatement.
Tout à fait. En fait, c'est le problème. Alors, effectivement, ce serait très intéressant que toutes ces plateformes deviennent payantes, qu'on paye un abonnement, comme on paye un abonnement sur Netflix ou d'autres plateformes, et que finalement, elles n'exploitent pas nos données autres que pour la qualité du service ou pour nous apparier les uns les autres, communiquer, interagir, etc. Mais le problème, c'est que la concurrence est effroyable dans cette économie numérique. Le phénomène du winner take all, c'est n'importe quel n'importe quel étudiant sort d'une école d'une business school, sort un nouveau Snapchat, ça fait frémir les gros opérateurs parce que du jour au lendemain, ils savent que les effets réseau qui étaient évoqués précédemment, ils jouent dans un sens. C'est-à-dire, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a d'utilité, plus il y aura des effets de verrouillage et les gens sont verrouillés, mais jusqu'au point où, à un moment donné, il y a un service concurrent qui apparaît et là, les effets réseau peuvent devenir négatifs. La perte d'une partie de mes clients vers le nouveau service va me faire perdre d'autres clients et ainsi de suite. Donc, il y a des effets boule de neige qui vont dans les deux sens, en quelque sorte. Et le problème, c'est que les nouveaux services, pour s'imposer, se doivent d'être gratuits dans une logique marchande. Et donc, comment on fait pour être gratuit ? Eh bien, encore une fois, on va exploiter les données personnelles et on va faire de la revente de données, de la publicité, etc., etc. Et là, à mon avis,
le souci numéro un.
Alors, je vais revenir à la question de la demande, parce qu'évidemment, l'offre, on voit qu'ils ont tout intérêt à poursuivre sur ce modèle. Mais les consommateurs sont face à un paradoxe. Vous nous dites, Fabrice Rochelandais, que les individus ont un désir d'être protégés, mais qu'en réalité, une minorité seulement met en œuvre les moyens de se retrouver protégés sur Internet et dans leurs données, dans leurs applications, etc. Oui. À quoi est-ce que cela tient? Est-ce que ça n'est pas justement qu'on ne sait pas quels sont les risques encourus avec ce type d'usage?
Alors, on peut être conscient des risques encourus. Alors, je vais juste donner une anecdote. J'avais sorti il y a quelques années dans un colloque de droit le fait que 0,5% des internautes lisaient les chartes de privacy, les politiques de confidentialité et la manière dont les données sont utilisées. J'avais sorti ce chiffre en disant bah, ça peut être que des juristes pervers ou des doctorants en droit. Et ce chiffre a été repris deux, trois fois. Mais en fait, oui, le paradoxe de la vie privée, c'est simplement le fait que d'un côté, on a dans n'importe quelle enquête, les gens veulent protéger leur vie, mettent la vie privée comme une valeur essentielle, sa vie privée, sa propre vie privée, et en même temps ont un comportement qui n'est pas conforme, puisqu'on s'expose, on divulgue des données, on se protège plus ou moins mal, on va dire, avec un marché des technologies de protection, de cryptage qui est quasiment inexistant du point de vue des individus. En tout cas, on ne crypte pas ses mails, par exemple. On navigue très peu en mode anonyme, etc. Donc c'est un paradoxe. Alors, du point de vue d'un économiste pur et dur, on dira, ben, c'est de l'irrationnel, ça ne rentre pas dans le modèle de la rationalité parfaite, parce que les comportements ne sont pas conformes aux préférences. Si j'aime les fraises, je mange des fraises. Si je veux respecter ma vie privée, je protège ma vie privée. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de travaux en économie comportementale qui montrent au contraire qu'il y a une certaine rationalité. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des applications. Quand je charge une application, chaque fois que je vais charger une application, je suis au courant qu'il y a un petit bout de moi-même, mon âge, mon poids, ma géolocalisation, qui part quelque part, je ne sais pas où. Quelque part, je sais qu'il y a un risque. Au moment où je vais cliquer, j'accepte, je sais qu'il y a un risque. Mais en même temps, je ne suis j'ai envie de jouer à un jeu débile sur un smartphone. Deux, je ne suis pas forcément conscient tous les jours et je ne suis pas capable d'agréger tous les petits risques que je prends chaque fois que je télécharge et que j'utilise une application. Et c'est-à-dire, par exemple, c'est quelque chose, ce qu'on appelle un biais psychologique assez élémentaire, c'est qu'on a tendance à sous-estimer les risques cumulatifs, comme quand on fume, par exemple. L'image
Qu'ils sont lointains.
Parce qu'ils sont lointains, ils sont indéterminés. Et je préfère un petit plaisir, un petit jeu ou une petite application où je peux interagir, échanger des photos tout de suite avec mes amis, face à un risque qui peut être énorme, par exemple l'intrusion dans ma vie privée, la fraude à la carte bancaire, le fait d'être spammé, le fait d'être surveillé, le sentiment, enfin, voilà, tout ce qui va avec. Finalement, c'est un risque qui est lointain, qui n'est pas facilement calculable. Donc, entre une petite gratification, une utilité immédiate et un dommage peut-être énorme, mais qui est futur et non probabilisable, ben, l'arbitrage est vite rendu.
Benjamin Bayard, dans ce manque d'information qui peut faire que les personnes ne vont pas agir en fonction de leur croyance ou de leur volonté, on peut dire aussi qu'il y a une question assez naïve et assez bête, mais concrètement, qu'est-ce que l'on risque? Qu'est-ce que l'on risque à voir ces données, à part peut-être voir divulguer nos informations privées au grand jour? Si on n'est pas très connu, a priori, on peut se dire, ça ne m'inquiète pas. Et il y a cette fameuse idée de la doxa.
J'ai rien à cacher.
Je n'ai rien à cacher.
Alors, le je n'ai rien à cacher, c'est ce qu'explique le chef d'État totalitaire à sa population. Les honnêtes gens n'ont rien à cacher. Je suis sûr que M. Ben Ali était de cet avis en Tunisie, et je suis sûr que les dirigeants d'Allemagne de l'Est étaient de cet avis-là, quand la Stasi surveillait tout le monde. Donc, c'est pas là qu'est le problème. Le problème, ce ne sont pas mes données personnelles à moi, au sens où c'est pas savoir avec qui je couche, le problème. Le problème, c'est l'effet systémique structurant sur la société. Ça crée une société dans laquelle vous êtes tout le temps sous surveillance. Et vous savez que vous êtes sous surveillance puisque à chaque fois que vous regardez un écran, l'écran vous renvoie l'image de qui vous êtes. C'est pas comme ça que fonctionne le monde normalement. Quand je sors de chez moi et que je vais chez mes commerçants habituels, ils me renvoient une image de qui je suis, ce qui est normal. Mon boucher me connaît, donc il me renvoie une image de qui je suis. Mais dès que je suis un tout petit peu plus loin de cet effet-là, normalement, non, on me renvoie pas une image de qui je suis. Et le fait d'être enfermé dans ce qui ressemble un peu aux bulles de filtre, si vous voulez, le fait d'être enfermé comme ça dans une société qu'on vous présente et qui est fausse, puisqu'elle a été taillée sur mesure pour ce qu'on croit que vous êtes, on vous transforme. Et on vous transforme individuellement, et surtout, on nous transforme tous comme groupe. C'est-à-dire parce qu'on suppose que le groupe a ce comportement-là, on nous présente toujours les mêmes choses, on nous enferme toujours dans les mêmes clichés, et donc on formate le groupe à être de plus en plus homogène, à être de plus en plus tout le temps pareil. Ça, c'est extrêmement dangereux.
Mais le problème, Fabrice Rochelandais, est-ce que ce n'est pas comme pour le changement climatique, tant qu'on n'aura pas les incidences directes sur notre vie quotidienne, est-ce qu'on sera prêt à changer et à adapter nos comportements?
Alors, moi, je suis d'accord avec ce que Benjamin Bayard a dit précédemment, c'est-à-dire qu'il y a un coût collectif, il faut voir vraiment comme ça, un coût environnemental, on est tous liés, etc. Bon, ces données d'ailleurs sont exploitées ensemble, il n'y a pas une exploitation séparée des données, elles ont de sens que si elles sont exploitées par rapport à des profils, etc. Le problème, c'est que ce paradoxe de la vie privée qui est mis en évidence par des économistes, des psychologues, etc., c'est que ça peut rendre les régulations difficiles. Pendant 5-6 ans, j'ai travaillé avec un collègue sur ces questions d'efficacité en tant qu'économiste, d'efficacité des régulations. Et un jour, je me souviens que j'étais arrivé catastrophé, j'étais jeune chercheur, j'ai dit non, mais il n'y a pas de régulation efficace. Et en fait, on a trouvé la cause, c'est que justement, les individus sont pas forcément, sont victimes d'un paradoxe, parce que simplement, les effets sont diffus. Les effets sont collectifs. Le fait d'être contrôlé, on s'en rend pas compte. Tout à l'heure, on parlait de la publicité prédictive qui influence, etc. Mais ça se fait pas. Du jour au lendemain, il n'y a pas une espèce d'apocalypse où je change de vie et c'est horrible. Non, ça se passe tranquillement, un peu comme le réchauffement climatique. Les effets sont dans le temps, s'étalent dans le temps. Et donc, quelque part, comment on fait pour réguler et essayer de corriger? Et pourquoi réguler d'ailleurs, enfin je profite aussi pour dire cela, mais pourquoi vouloir réguler les données personnelles, en tout cas l'exploitation qui en est faite, la collecte, etc. C'est parce que d'un côté, comme il y a des aspects positifs, il y a comme des innovations sociales Facebook est une innovation sociale, c'est pas non plus quelque chose qu'il faut supprimer du jour au lendemain, c'est son modèle économique qui pose problème, mais ce que Facebook rend comme service, c'est pas inintéressant, la preuve, il y a quand même des centaines de millions, des milliards d'utilisateurs à travers la planète. Donc il faut essayer de trouver un espèce d'équilibre entre d'un côté les bienfaits en quelque sorte, les innovations d'usage, etc. Et puis de l'autre, les dommages. Et le problème, c'est que ces dommages, ils ne sont pas, comme vous le dites, perceptibles immédiatement par les individus, ce qui rend difficile toute forme de régulation.
Et alors en matière de régulation, on a longtemps pensé que les entreprises avaient tout intérêt à être vertueuses, car si elles ne l'étaient pas, elles risquaient de ternir leur image et donc de perdre des clients. C'est une idée un peu presque de RSE, de risque de ternir cette image. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, Fabrice Rochelandais?
Alors, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation ou la régulation marchande, quoi. En fait, les entreprises se concurrencent. C'est un peu Google face à Yahoo. Je suis plus respectueux de la vie privée, donc ça devient un argument de vente. Il y a une espèce de mieux-disant, un espèce de mieux-disant, quoi. Une guerre. Enfin, la protection des données personnelles devient un argument marketing. Je pense que là, le problème, c'est que les entreprises sont juges et parties. C'est-à-dire que c'est elles qui vont décider les normes de privacy, de vie privée. C'est elles qui vont mettre les moyens d'action. Et puis surtout, quel est leur intérêt aux entreprises? Est-ce que c'est de minimiser la collecte? Est-ce que c'est de prendre que des données et ne pas les revendre s'il y a un marché qui s'offre à elles du jour au lendemain? Je pense que l'autorégulation est un mythe.
D'autant qu'on a vu qu'en dépit des multiples scandales qui ont pu émerger, les utilisateurs ne changent pas vraiment leurs pratiques. C'est peut-être aussi parce qu'ils sont captifs de certains monopoles. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit la journaliste Amaëlle Guiton, spécialiste des enjeux du numérique, le 11 avril 2018 dans les matins de France Culture.
On voit bien qu'on arrive aux limites finalement du modèle Facebook pour deux raisons. C'est que d'une part, on se rend compte de ce que signifie leur modèle publicitaire, hein, la monétisation, comme on dit, des données personnelles et des conséquences que ça a, notamment sur le partage de ces données personnelles avec des acteurs tiers, hein, qui est le problème posé par Cambridge Analytica. Et d'autre part, une question d'infrastructure tout simplement, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut imaginer raisonnablement un réseau social avec 2 milliards d'individus qui fonctionne bien en étant géré par une entreprise privée de surcroît de droit américain? Moi, je suis assez fermement convaincu du contraire. Donc on voit bien qu'on touche aux limites du modèle. Effectivement, la question, c'est qu'est-ce qui peut en sortir? Est-ce que des alternatives sont possibles? On va pas avoir une fuite d'utilisateurs de Facebook du jour au lendemain, ça j'y crois assez peu. Mais l'émergence de contre-modèles, il faut en tout cas le souhaiter. Ouais.
Benjamin Bayard, on arriverait donc aux limites du modèle Facebook selon Amaëlle Guiton. Pourtant difficile d'imaginer une fuite des utilisateurs du réseau social. Il faut dire que la firme étant quasi monopole sur ce marché, que les utilisateurs sont pour ainsi dire captifs.
La firme est en monopole, pas en quasi monopole. La firme est en monopole et c'est un des problèmes. On peut pas analyser ça comme une concurrence sur un marché. Il n'y a pas de marché. C'est qui le concurrent de Facebook? Le concurrent de Facebook, le concurrent de mon boulanger, c'est vachement simple. C'est le boulanger d'à côté, je peux aller lui acheter du pain, j'aurai du pain, je m'en servirai de la même façon, je m'en servirai dans le même repas, je vais l'assaisonner pareil, j'y mettrai le même beurre et la même confiture. Donc c'est du pain. Il est meilleur, moins bon, mais enfin c'est du pain.
Alors qu'aujourd'hui, c'est... Facebook a des activités qui sont complètement multipliées.
Non, c'est pas le problème.
Notre kiosque de journaux,
c'est...
notre...
C'est pas le problème. Qui est le concurrent de Facebook? Qui est le concurrent de Facebook?
On pourrait penser qu'il y a de multiples concurrents sur des secteurs particuliers de Facebook, mais personne n'a cet usage...
Absolument pas. Le secteur essentiel de Facebook, c'est le réseau des amis que vous avez là-bas. À moins que vous ayez exactement le même réseau d'amis sur un autre outil que Facebook, par exemple sur Mastodon, sur Diaspora, sur n'importe quel outil de partage et d'échange, hein, il y en a des milliers des outils de partage et d'échange. Si vous y avez le même réseau d'amis, c'est un concurrent de Facebook. Si vous n'y avez pas le même réseau d'amis, c'est pas un concurrent de Facebook. Ce que vous êtes en train de me décrire, quand vous me dites kiosque à journaux, quand vous me dites on accède à de la musique, à de la culture, à machin, etc. Non, 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 non. Ça, ce sont les clients de Facebook. La marchandise, c'est le réseau que vous et vos amis vous formez. Donc effectivement, cette marchandise est mise à disposition de tout un tas de gens qui viennent vous présenter un service et vous profitez de ce qu'ils offrent. Mais
Fabrice Rochelandais, vous n'avez pas l'air d'accord.
Vraiment, le produit, c'est Facebook. Il y a un point sur lequel je veux terminer. L'idée essentielle, c'est pas, on peut pas faire diminuer Facebook en taille et le rendre moins dangereux si on le force pas à l'interopérabilité. Et en forçant Facebook à l'interopérabilité...
Expliquez-nous ce concept d'interopérabilité.
Ben, c'est assez simple, c'est l'idée qu'il puisse exister une plateforme autre qui se connecte à Facebook, sur laquelle vous avez votre profil, et où vous pouvez interagir avec les gens qui sont restés sur Facebook et dont le profil est resté là-bas. Exactement comme quand vous utilisez votre mail Gmail, vous pouvez communiquer avec moi qui ai un mail hébergé sur ma machine, et on peut communiquer avec quelqu'un qui a un mail chez n'importe qui d'autre. De la même manière, on peut imaginer que le réseau social formé aujourd'hui par Facebook devienne un système ouvert, ou d'autres plateformes que Facebook peuvent s'y interconnecter. Par exemple, vous pouvez utiliser, je sais pas, votre messagerie Telegram pour discuter avec vos amis qui sont sur le Messenger de Facebook. C'est ça l'interopérabilité. Et en fait, à partir du moment où on force ces services à l'interopérabilité, on permet une diversité des plateformes et on supprime cet effet de monopole.
Fabrice Rochelandais.
Non, moi je suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que Yahoo était un monopole à part entière et a été complètement déplacé par Google. Et Google est menacé par Facebook. Le marché, enfin, on a tendance à pas forcément bien situer où est le monopole. Et où sont les enjeux de la guerre informationnelle, mais la guerre économique aussi qui se livre entre ces différentes plateformes. Juste un exemple, c'est quand Facebook rachète Instagram ou rachète WhatsApp à coups de milliards. C'est parce que Facebook est peut-être un monopole, mais un monopole contestable. Alors, la question est, en revanche, moi je suis d'accord, à court terme, pour l'instant, c'est Facebook. Enfin, Facebook fait partie de ces grandes plateformes qui est en monopole sur les services d'interaction, de réseautage, etc. Tout comme Google est en monopole, quasi-monopole, là, sur les moteurs de recherche, etc. Les applications mobiles.
Mais on voit que les jeunes n'utilisent plus Facebook maintenant.
De plus en plus, ils migrent, oui, c'est assez impressionnant. Moi, je vois pas mal de jeunes qui migrent sur d'autres plateformes, qui sont même des fois inconnues, enfin, de nouvelles. On voit apparaître chaque fois TikTok, par exemple.
Est-ce qu'on peut penser qu'on verra la fin de Facebook de notre vivant, ou est-ce que c'est justement cette stratégie qui est mise en œuvre d'aller dans différents secteurs, justement, pour contrer cette perte des usagers sur le réseau social?
Oui, c'est de maintenir le verrouillage, hein, c'est ce qui était dit précédemment, c'est-à-dire ce qu'on appelle le lock-in ou le verrouillage, c'est-à-dire toujours un peu comme Google. Google a promis de tendre un fil vers l'espace. On essaye toujours d'investir d'autres marchés, d'autres segments, d'autres usages, pour essayer de maintenir sa position coûte que coûte. Mais encore une fois, on n'est jamais à l'abri d'une petite start-up qui, en un an, peut passer de 30 utilisateurs à 1 million, comme ça a été le cas historiquement par Napster ou d'autres depuis lors.
Est-ce que l'un des moyens de cette interopérabilité dont on parlait à l'instant, ça n'est pas aussi le nouveau règlement européen de protection des données qui nous le donne, avec ce que l'on appelle le droit à la portabilité? Peut-être que vous pourriez nous expliquer ce que c'est, Fabrice Rochelandais.
Un droit à la portabilité, ça serait le droit de récupérer ces données et d'être dans un format exploitable et de pouvoir les utiliser, ce qui était évoqué par Benjamin Mayer précédemment, hein, c'est pouvoir les utiliser sur notre plateforme. Moi, je pense que le droit à la portabilité, c'est intéressant dans certains secteurs, par exemple, comme un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone est une une ressource non reproductible. Je peux pas avoir deux opérateurs avec un même numéro de téléphone, c'est assez compliqué. Alors, donc la portabilité fait jouer la concurrence entre les opérateurs telco, quoi. En quelque sorte, ça c'est historique.
Ça remet en cause cette forme de verrouillage dont vous parliez à l'instant.
Sur le marché des telcos, mais sur les marchés des médias sociaux, en revanche, Snapchat peut reproduire exactement avec d'autres types de données. On disait tout à l'heure, c'était pas important la carte postale envoyée à la grand-mère, etc. Mais ce qui est important, c'est que la géolocalisation, elle peut se faire par elle peut s'obtenir par plein de biais, plein de médias différents que l'on poste en ligne, que ce soit une photo, une vidéo, que ce soit à un moment donné le fait de je sais pas, d'interagir, d'ouvrir sa lampe avec son smartphone, on peut se faire géolocaliser avec ça. Donc du coup, quelque part, Snapchat comme Facebook, comme Google peuvent reconstituer les mêmes données personnelles. Et donc la portabilité, quelque part, ne va pas forcément remettre en cause le sacré graal pour c'est-à-dire les données personnelles, les bases de données personnelles qui sont constituées et renouvelées en temps réel par ces grandes plateformes. Donc ça c'est pas forcément un instrument, à mon avis, c'est un instrument intéressant, le droit à la portabilité, mais pas forcément un instrument qui va porter beaucoup de fruits.
Benjamin Baer, sur ce droit à la portabilité, et j'en profite pour vous glisser une autre question sur ce qui a été proposé aussi, évoqué l'idée de faire de ces données un droit, notamment certains libéraux proposent de faire un véritable droit de captation de ces données pour ensuite décider de les utiliser et donc de les vendre, ou de ne pas les utiliser et donc auquel cas de payer pour utiliser une application, un géant du numérique et autres.
Ouais, il faut une certaine couche de bêtise pour croire à ça. Sur la portabilité, c'est le fait de partir avec mes données. Donc quand je quitte mon opérateur téléphonique, je récupère mon numéro de téléphone. Quand je quitte mon opérateur de mail, je pars avec le contenu de ma boîte mail et je pourrais réinjecter ce contenu dans les archives de mail de la nouvelle boîte que je viens d'ouvrir. Si je pars avec les contenus de Facebook et que je vais ailleurs avec, ça ne me sert à rien. Tous les contenus que j'ai postés sur Facebook, ça ne me sert à rien puisque j'ai plus mon réseau. En fait, la portabilité est intéressante une fois que l'interopérabilité existe. C'est-à-dire, une fois qu'il peut exister une deuxième plateforme, une troisième plateforme qui sont interopérables avec Facebook, comme les différents opérateurs de téléphonie sont interopérables entre eux.
C'est le préalable pour pouvoir utiliser cette forme de portabilité. Voilà, si on pense à Google, par exemple, les données ne sont pas simplement utilisables par rapport à nos amis.
C'est autre
chose.
Le problème, typiquement, le marché du moteur de recherche est beaucoup moins verrouillé. Si vous voulez changer de moteur de recherche, vous pouvez le faire, c'est en un clic. C'est ce qui fait que Quant a une chance de percer. C'est ce qui fait que Bing, le moteur de recherche de Microsoft, continue d'exister.
C'est ce qui fait que Yahoo
continue d'exister dans les limbes des souvenirs de ce qui marche pas des internets de l'ancien temps. Je veux revenir sur cette question de vendre ses données personnelles, parce qu'en fait ça revient à ça, c'est créer un droit patrimonial sur les données personnelles. Pour moi, il y a un problème dual. D'abord, ça ne sert à rien, puisque le problème n'est pas un problème individuel, mais un problème collectif. On ne peut pas régler un problème collectif en créant un droit individuel, ça ne marche pas. Mais surtout, fondamentalement, ça veut dire que seuls les riches ont le droit à la vie privée. Parce que vous me direz, mais non, c'est pas ça la question, c'est est-ce que les pauvres peuvent gagner 3,50€ en vendant toute leur vie. Dans les pays où on peut vivre en vendant un organe, vous pensez que c'est les riches qui vendent un rein ? Non, c'est toujours les pauvres. Donc dans un pays où la vie privée se cède contre quelques piécettes, c'est toujours les pauvres qui vont les céder, c'est jamais les riches.
Les seuls qui auront les moyens de se permettre d'avoir une vie privée, ce sera les riches peut-être dans ce monde.
Alors quand je dis riches, ça ne veut pas dire milliardaires, juste les gens qui sont, disons, les 50% les plus riches de la population.
Merci beaucoup Fabrice Rochelandais et Benjamin Baillard d'avoir été parmi nous pour analyser les méandres de la gratuité du numérique. Fabrice Rochelandais, je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Économie des données personnelles et de la vie privée » publié à La Découverte. Demain, nous achèverons cette série sur le gratuit en réfléchissant avec Paul Ariès et Paul Jorion aux perspectives qu'offre la gratuité comme remède aux excès du capitalisme. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission en podcast et bien d'autres disponibles à l'infini sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux avec le mot-clé « Entendez-vous l'écho ?».